Vous écoutez Radio Aramigo.
Restez sur Arengo, vous allez suivre maintenant la chronique L'Actu Tiède de Luc Van Lerberg.
Bonjour à tous, vous êtes donc, comme vient de nous l'annoncer Manu, dans L'Actu Tiède avec Luc Van Lerberg, la quatrième chronique de Luc. Bonjour Luc.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça va bien aujourd'hui ?
Très bien, très bien.
Alors aujourd'hui, tu as choisi deux sujets, on va dire que c'est le grand écart, hein, complètement à l'opposé. On a d'abord le centenaire de la naissance de Georges Brassens, compositeur et chanteur musicien devant l'éternel, comme tout le monde le sait. Et d'un autre côté, le rapport RTE sur les futurs énergétiques 2050. Rien à voir entre l'un et l'autre, n'est-ce pas ?
Absolument, mais c'est de l'actu.
C'est de l'actu. On commence par Brassens ?
Absolument.
Alors dis-moi, pourquoi as-tu choisi ce thème-là ?
Alors, le choix du sujet est relativement simple. C'est le centenaire de la naissance de Georges Brassens et nous sommes sur une radio musicale. Évidemment, ça a du sens. Et surtout, nous sommes dans une rubrique où l'on traite de l'actu tiède. Alors, pourquoi ne pas parler d'un génie qui, en l'état, est refroidi depuis longtemps maintenant ?
Oh, bravo !
Avant de me lancer, je veux prévenir tout le monde. Je ne connais pas Georges Brassens autrement que par quelques morceaux écoutés lorsque j'étais petit. C'est un artiste d'un autre temps, et si je me permets d'en discuter, c'est que j'ai pris le pari, en novice, de me laisser inspirer par ses musiques. J'ai donc écouté les tubes les plus connus, alors Le Gorille, Les Copains d'abord, Les Amoureux des Bancs Publics, et à l'écoute, voici les réflexions qui me sont venues. Brassens, c'est une voix. Une voix de conteur, rock, pour pas dire rock, dans laquelle on entend la pipe et le tabac, dans laquelle on entend la terre, sinon le terroir, dans laquelle on entend une sévérité empreinte de bienveillance, mélangée à une forme d'humour, parfois cynique, parfois enfantine, mais souvent humaine. Figurez-vous que je me suis demandé quel accueil cette voix recevrait aujourd'hui dans un télécrochet comme The Voice. Et là, je dois dire que je ne peux pas m'empêcher d'imaginer cet artiste comprendre qu'il ne peut faire carrière dans un monde musical aussi normé, nivelé, aussi dicté par les souhaits consuméristes, au lieu d'être dicté par l'âme ou la seule et unique inspiration artistique. Brassens, c'est aussi un temps. Que dis-je ? Un tempo. La lenteur avec laquelle ces mots sont prononcés coule sur les notes et nous arrive aux oreilles en un tempo que nous ne connaissons plus et qui est celui d'une société passée. Brassens était l'artiste d'une France qui avait encore le temps d'écouter, le temps de vivre, le temps de se laisser aller. Le tempo d'aujourd'hui est le plus souvent rapide, frénétique. C'est le tempo d'une société qui change constamment. C'est le tempo répétitif du stress assourdissant d'un quotidien dans lequel on devrait savoir dire « gargouille », dans lequel on devrait pouvoir s'asseoir sur les bancs publics pour se bécoter, dans lequel ce qui devrait nous occuper, ce sont nos copains d'abord.
Ah, oh, je voulais juste te dire que tu chantes presque juste, bravo.
C'est vrai, j'ai pas chanté juste, je suis navré.
Si, si, presque, presque.
Ah, mais presque, c'est pas juste.
Moi, je trouve que pour quelqu'un novice par rapport à Brassens, c'est absolument magnifique ce que tu as écrit sur lui. En tout cas, moi, j'aime beaucoup.
C'est juste des choses qui viennent uniquement en écoutant. Donc, en fait, ça vient un peu de Brassens.
Ben voilà. Tu sais qu'il aurait dit « j'aurais pu être un Al Capone de première catégorie ». Sais-tu pourquoi il a dit ça ?
Non.
À 18 ans, il a été condamné à 2 semaines de prison avec sursis pour vol de bijoux en 38 et en 39. C'est incroyable, hein ? Est-ce que tu aurais imaginé ça de Georges Brassens ? Non, franchement.
Bon, il faut regarder le contexte en 38-39, et puis il faut regarder les raisons pour lesquelles il a pu faire ça.
Oui, en tout cas, cette mésaventure l'a poussé à quitter sa famille et à monter à Paris, et heureusement, parce que sinon, je pense pas qu'il aurait fait cette carrière-là s'il n'était pas parti pour Paris. On n'en sait rien, mais on peut l'imaginer quand même. Hein. Moi, j'ai toujours trouvé incroyable, les textes sont toujours très très bien écrit, c'est le français que j'aime, mais au final l'accompagnement c'est une guitare, 2 accords et demi et toujours les mêmes en plus, en tout cas rythmiquement c'est toujours quasiment la même chose et chaque chanson est absolument incroyable.
C'est un chanteur à texte et c'est un chanteur qui mettait beaucoup de sens dans son art. Donc je pense que c'est pour ça qu'on le ressent comme aussi incroyable et c'est aussi pour ça que c'est presque intemporel et que finalement même aujourd'hui moi je redécouvre Brassens en toute honnêteté et je l'ai découvert avec grand plaisir. J'avais entendu bien sûr comme beaucoup peut-être de ma génération sa musique par-ci par-là avec les parents, mais je m'étais jamais attardé au texte même, et j'avoue que c'est une belle découverte.
Tout à fait. Alors, ce que je te propose, c'est que avant d'enchaîner avec ton autre sujet, on va faire une petite pause Brassens, ça te va ? Alors, je connaissais déjà une chanson qui s'appelle « J'ai rendez-vous avec vous », mais cette fois-ci, elle est chantée par Jean-Pierre Darroussin, incroyable, un acteur qui chante Brassens, et c'est tellement bien chanté que je voulais vous le faire découvrir. Donc, on écoute.
Monseigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, m'enlève son feu ou mette son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux, tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, chasse de son toit, oui mais de son toit, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe froufrou, tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous, chasse de sa table, oui mais ta table, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou, tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde son or, or de son or, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. J'ai rendez-vous avec vous.
Voilà, magnifique cette chanson, n'est-ce pas ? Alors, maintenant, le rapport, on va être plus terre à terre, le rapport RTE sur les futurs énergétiques 2050, Luc. Pourquoi ce thème ?
Alors, parce que nous sommes toujours dans l'actu tiède et que cela se réchauffe. Je parle bien sûr de réchauffement climatique. Donc, ce combat contre le CO2 qui est la cause principale de ce réchauffement climatique. Ce sujet n'est pas une actu tiède. C'est une actu brûlante. La COP26 a ouvert le 31 octobre et se déroulera jusqu'au 12 novembre. Et la grande question est comment sauver le monde sans perdre nos habitudes de consommation ? Pire, comment sauver le monde tout en consommant toujours plus ? Eh bien, c'est la question qui est posée à RTE, qui est le réseau de transport électrique, organisme public à qui l'État a demandé une analyse. Alors voici quelques chiffres. D'ici 2050, en raison de la disparition accrue des énergies fossiles, dont je rappelle qu'ils sont justement à l'origine du réchauffement, nos besoins en consommation d'électricité devraient augmenter de l'ordre de 70 à 90% par rapport à aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce que nos voitures seront électriques, parce que notre dépendance de fourniture de gaz par la Russie est une épine dans le pied des États européens et qu'il faut la minimiser, parce que notre industrialisation devrait se renforcer et que vous qui écoutez, allez continuer à le faire sur vos tablettes, téléphones, ordinateurs, et que pour votre confort, il faudra bien vous fournir un douillet chauffage électrique. Alors, quelle est la conclusion du rapport ? Eh bien, que nous n'allons pas pouvoir nous passer du nucléaire qui devra représenter 50% de notre production, alors que les 50% restants devront être compensés par les énergies dites vertes, c'est-à-dire l'éolien, le solaire ou l'hydraulique. Alors, ce rapport donne finalement raison à De Gaulle, le grand Charles, dont il faut rappeler qu'il fut celui qui impulsa nos investissements dans le nucléaire en créant le commissariat à l'énergie atomique dès 1945. Bien, que m'inspire ce rapport ? Deux choses. Un, qu'il faut prendre du recul sur celui qui l'écrit, parce que RTE, c'est l'État. Ce n'est donc pas un rapport scientifique, c'est un rapport qui prend en compte les contraintes de l'État, à commencer par la capacité de l'État à se réinventer, et faute de moyens, eh bien cette capacité est faible. Il faut entendre, deuxièmement, l'angle sous lequel le problème est posé. Il ne s'agit pas de lutter contre la pollution, ou du moins pas directement. D'ailleurs, aucune solution n'est sans pollution. Toute l'activité humaine est polluante pour notre planète. Il s'agit en fait de concilier compétitivité économique et lutte contre le CO2. Or, cela doit nous alerter. Même si le rapport est une prospective sur 2050, les politiques qui naîtront ne seront pas des politiques proactives, ni surtout créatives. Ce seront, comme trop souvent, des décisions de réaction à un problème. J'ai cité De Gaulle tout à l'heure. Il fut sans doute le seul président imaginant la France de demain plutôt qu'un président étudiant des solutions à une problématique. Eh bien, ma conclusion à tout cela sera, il est bien loin le temps où l'on disait qu'en France, on n'a pas d'argent, mais on a des idées. Mais le temps ne fait rien à les faire. Quand on est con, on est con. Merci, Vincent.
T'es revenu à ton premier sujet. La boucle est bouclée, donc.
Absolument.
Oui, j'ai vaguement parcouru, Luc, le fameux rapport RTE. Moi, tout ce que j'en sais, c'est qu'ils ont proposé 6 scénarios. On ne va pas les détailler, mais ils ont proposé des choses. Le premier étant zéro nucléaire jusqu'au dernier. Le sixième étant quasiment 50-50 nucléaire et 50 énergies renouvelables. Tout ce que je vois dans les coûts annualisés, c'est que le dernier revient nettement moins cher que les deux premiers. Mais vraiment nettement moins cher, genre 20 milliards d'euros par an d'écart. Donc ça penche quand même vers le nucléaire, si on parle juste une histoire d'argent. Et j'avais Isabelle qui disait, mais ne peut-on pas une bonne fois pour toutes remplacer complètement le nucléaire? Est-ce possible?
Dans l'immédiat, le rapport dit que non, parce qu'on n'a pas d'argent, tout simplement. C'est-à-dire que pour remplacer le nucléaire, il faut des investissements massifs. Et est-ce que la France est aujourd'hui en capacité de réaliser ces investissements massifs? La réponse est non. Maintenant, est-ce qu'on peut se passer du nucléaire? Un jour, on pourra se passer de cette forme de nucléaire, c'est-à-dire le nucléaire qui fait peur à tout le monde. Autrement dit, la fission nucléaire, c'est-à-dire la mécanique qui est actuellement utilisée dans nos centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, les scientifiques dans le monde travaillent non pas sur la fission nucléaire, mais sur la fusion nucléaire, qui aurait l'avantage de créer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'électricité, donc de capacité de production électrique, avec des coûts en termes de déchets qui seraient quasi nuls et des coûts en termes de risques qui seraient également quasi nuls. On a une solution, en fait, à laquelle tous les scientifiques pensent. C'est une solution qu'on n'a pas immédiatement parce que les défis techniques et technologiques sont colossaux. Si vous voulez que je fasse un point un jour dans ma rubrique, je le ferai bien volontiers. Mais en tout cas, on ne peut pas se passer du nucléaire aujourd'hui parce que pour aller vers la fusion nucléaire, dans l'attente, il faut pouvoir continuer avec la fusion nucléaire.
Et alors, j'avais une autre question justement là-dessus de Yolande qui me dit, mais ne peut-on pas reconstruire des centrales, parce qu'il y en a plein qui ont plus de 30 ans, et à un moment, il va falloir les casser, les reconstruire, plutôt investir cet argent-là dans, par exemple, de l'éolien ou autre, ou les énergies marines, plutôt que du nucléaire. Est-ce que ce ne serait pas intéressant, puisqu'on dit qu'il n'y a pas d'argent?
Si, si, bien sûr, pourquoi pas. Mais alors, il y a d'autres contraintes, en fait, qui rentrent en ligne de compte. D'abord, l'éolien n'est pas exemple de pollution. Par ailleurs, il y a un problème avec l'éolien, c'est que on dépend du vent et que parfois les pics de consommation ne coïncident pas toujours avec les pics de production de l'éolien. Voilà pourquoi on considère encore aujourd'hui l'éolien plutôt comme un complément que comme un élément principal. Ensuite, on dépend des autres en fait pour construire nos éoliennes. Et là, c'est pareil, la dépendance vis-à-vis des pays étrangers est embêtante. Ce qui a fait la grande force de la France dans les années 60-70, ça a été justement cette capacité à créer de l'électricité par elle-même, en tout cas principalement par elle-même grâce au nucléaire. En gros, l'éolien pose un certain nombre de problèmes. Le solaire pose les mêmes problèmes en réalité. C'est qu'aujourd'hui, qui est le grand producteur des panneaux solaires? C'est la Chine, on n'en veut pas. Le panneau solaire à recycler, c'est très, très polluant. Et puis, il y a le problème que quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Donc, on est toujours devant cette difficulté d'un réseau en fait électrique qui doit être constamment alimenté, qui doit même être en surproduction parce qu'on vend également notre électricité par ailleurs. Maintenant, sur la question de peut-on remplacer nos centrales nucléaires, je vais vous donner une information, ou en tout cas, je vais vous donner une prédiction. C'est que suite à ce rapport, dans quelques mois, ou peut-être même quelques jours, j'en sais rien, mais quelques mois probablement, le président de la République ou le futur président de la République, ça dépendra peut-être aussi des élections, nous dira tout simplement qu'il va remplacer nos vieilles centrales par des centrales EPR, c'est-à-dire des centrales nouvelle génération.
Et peut-on, plutôt que d'investir dans des nouvelles centrales, en fait, peut-on garder les centrales qui fonctionnent, mais commencer à investir par ailleurs dans d'autres choses, ou le solaire, ou le photovoltaïque?
Oui, bah, c'est des centrales, en fait, qui sont conçues pour minimiser un petit peu les risques et qui sont beaucoup plus, qui ont un réacteur de nouvelle génération et qui produit donc mieux l'électricité, tout simplement. Donc,
d'accord.
On a une centrale qui est en création. Alors, elle fait beaucoup parler parce que les surcoûts de sa construction et les retards dans sa construction, bah, sont catastrophiques. On parle de plus de 15 milliards de surcoûts et la centrale aurait déjà dû être mise en place, elle ne l'est pas. Mais ouais. C'est l'avenir, c'est-à-dire qu'on a une avance technologique là-dessus avec d'autres pays puisqu'on le fait conjointement avec d'autres. Mais on a cette avance-là et il faut bien que l'investissement qui a été fait dans la recherche autour de ça, bah, se concrétise. Comme nos centrales sont vieilles, il faut les remplacer et je gage que, à moins qu'une avancée technique et technologique fabuleuse nous amène tout de suite à la fusion nucléaire, eh bien, dans l'attente, eh bien, ce seront les centrales EPR qui vont prendre le relais de nos vieilles centrales. Mais une centrale EPR, c'est une centrale à fission, hein, classique.
D'accord. C'est vrai que quand on dit nucléaire, ça fait peur. Et c'est un premier réflexe qu'ont la plupart des gens, parce qu'ils ne connaissent pas bien ce qu'est le nucléaire ou parce que c'est réel? Ça, c'était une question d'Albert.
Non, mais c'est réel parce qu'une centrale nucléaire n'est jamais sûre à 100%. On l'a vu avec Fukushima, on l'a vu avec nous en Europe, avec la centrale de Tchernobyl. Alors, les accidents ou les incidents qui ont lieu dans ces centrales, aujourd'hui, les autorités nucléaires les ont pris en compte et les conceptions de nouvelles centrales tiennent compte justement de ce qui s'est passé. Alors, pour rappel, hein, rapide, parce qu'on n'est pas dans une émission scientifique, mais quel est le problème dans les deux cas? Eh bien, c'est la fusion justement du cœur nucléaire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un incident grave sur une centrale, le souci, c'est que le combustible à l'intérieur de la centrale, il n'est plus refroidi. Et lorsqu'il n'est plus refroidi, il continue à augmenter en température, à des températures telles qu'il peut tout traverser. Il traverse le béton, etc. Bon. Les anciennes centrales, elles n'étaient pas conçues pour arrêter, en fait, le matériau en fusion qui traverse à peu près tout. Aujourd'hui, on a des techniques dans lesquelles que je ne vais pas expliquer maintenant, mais il y a des techniques qui permettent d'arrêter ces fusions nucléaires.
D'accord.
Après, Tchernobyl montre aussi que le problème, c'est pas que la fusion, c'est aussi tout ce qui sort de la centrale lorsqu'il y a incident, avec des zones qui peuvent être contaminées pour des centaines, des milliers d'années. Voilà.
On peut être un peu plus rassuré de ce qui se construit maintenant qu'il y a 30 ans quand même.
Alors, on peut être rassuré et surtout, il faut rappeler qu'en France, il n'y a jamais eu d'incident grave. Il y a eu des incidents dans des centrales nucléaires, il y en a eu plusieurs, mais jamais d'incident grave de type Fukushima ou de type Tchernobyl. Donc, on maîtrise quand même la chose. Voilà. Après, c'est toujours un problème de coût-risque. Se passer des centrales nucléaires aujourd'hui, l'Allemagne a fait le test, se séparer de ses centrales nucléaires, c'est revenir à l'énergie fossile. Et l'énergie fossile, vous savez qu'elle nous surchauffe la planète avec des coûts pour l'ensemble de la planète qui vont être dramatiques dans les années à venir.
Nous voilà un peu plus éclairés en tout cas sur le sujet.
Oui, alors après, je précise que c'est avant tout un constat. Moi, je pense qu'il y a des choses à inventer derrière tout ça. Il y a des idées, hein, je l'ai dit dans ma chronique. Mmh. On n'avait pas d'argent en France, mais on avait des idées. Donc, je vais revenir là-dessus. Il y a des tas d'idées. On pourrait tout à fait imaginer la supprimer le monopole de l'État sur la production de l'électricité et permettre peut-être, par exemple, aux maisons de produire elles-mêmes leur électricité par des moyens divers et variés et en s'additionnant, bien arriver à un système dans lequel on s'auto-suffit et même familialement, je dirais, d'électricité.
Tout à fait. Mais écoute, merci Luc pour ces deux chroniques très intéressantes. Comme d'habitude, nous sommes le 2 novembre, alors on te retrouve dans 15 jours, le 16 novembre.
Oui.
Tu nous donneras le sujet la semaine prochaine pour que nos auditeurs puissent poser les questions en amont.
Avec plaisir.
Super. Ben voilà, ce que je te propose, c'est de terminer cette chronique par, évidemment, une chanson qui a rapport avec le nucléaire. Et nous allons écouter La Rue qui est à nous. C'est un groupe que j'aime bien et qui chante L'âge nucléaire. À bientôt, Luc. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Au programme ce trimestre, l'âge nucléaire. Quand vivaient nos ancêtres sur la planète Terre. Avec leurs allumettes et leurs manteaux de fourrure, leur réseau internet et leur pot de confiture. sur un sol divisé en plusieurs parcelles. Ces hommes-là descendaient de la tour de Babel. Bien qu'ils eurent le même ciel, ils étaient jamais d'accord pour élire sa sentinelle, son nom et son folklore.
Quand ils ont tout fait sauter, mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais?
Les riches traitent aux riches ce que les pauvres prenaient aux pauvres. Il y avait des hommes sandwichés dans la gamelle des fauves. De l'eau il en pleuvait, mais pas pour tout le monde. Le climat se réchauffait, chacun voulait la bombe. Ils roulaient en bagnole et les bagnoles au super. Mais ça manquait de pétrole à part dans l'atmosphère. Au bord de la faillite, ils s'étripèrent entre eux. C'était sans doute la suite de la guerre du feu.
Ça avait encore du poil au pas quand ils ont tout fait sauter. Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais?
Rasaient les forêts, ils plantaient des OGM. Leurs pétroliers se vidaient dans la gueule des baleines. Un géant au pied d'argile mettait les pieds dans le plat. Il y a des traces à Tchernobyl et à Fukushima. Vivant le prochain trimestre au programme l'âge de pierre. Avec les peintures rupestres et les grands mammifères. Faudrait qu'on les chassait juste avec une lance. Que de l'eau il en pleuvait, on avait bien de la chance.
On avait encore du poil aux pattes quand on a tout fait sauter.
Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais? Ils avaient encore du poil aux pattes quand ils ont tout fait sauter. Mais je me souviens pas de la date. Papa, est-ce que tu la connais?